Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique au cours de laquelle nous nous intéresserons à l'Allemagne avec Hélène Myard de la Croix. Hélène Myard de la Croix, bonjour. Nous allons vous interroger donc sur ce voisin dont on parle beaucoup et qu'on cite tantôt comme exemple, tantôt comme repoussoir. Et nous, ce sera Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Plus d'un million de migrants sont entrés en Allemagne en 2015, venus de Syrie pour environ la moitié d'entre eux selon l'Office des migrations, mais aussi des Balkans, d'Irak, d'Afghanistan, d'Iran et du Pakistan. Bien que leur nombre diminue, il reste important, encouragé par l'attitude ouverte de la chancelière Merkel et par le processus d'intégration mis en place par les pouvoirs publics allemands avec le soutien des partis de la coalition. Ceux-ci ont d'ailleurs annoncé en février dernier la création de 100 000 jobs à 1 euro pour les réfugiés. L'appellation job à 1 euro est contestée par le ministère du Travail, pour qui, si ces emplois d'intérêt général dont les bénéficiaires étaient jusque-là des chômeurs de longue durée sont bien rémunérés 1 euro de l'heure, 7 euros est versé en plus des prestations d'aide sociale et contribue à l'intégration des migrants au marché du travail. Les adversaires de cette mesure considèrent au contraire qu'elle génère une pression à la baisse sur les salaires et qu'elle contribue à l'augmentation d'un taux de pauvreté qui en Allemagne est passé de 12,5 à 15,2% entre 2000 et 2012. Même si les Allemands demeurent beaucoup plus accueillants que les Français ou les Italiens, selon un sondage de l'IFOP de mars dernier, ils le seraient aujourd'hui beaucoup moins qu'au moment de l'ouverture des frontières. 47% de la population considère désormais qu'accueillir des réfugiés supplémentaires n'est pas possible. C'est 14 points de plus qu'en septembre. Face à cette évolution de l'opinion et aux nécessités économiques, la chancelière et son gouvernement ont pris des mesures en février dernier, rendant plus strictes les conditions d'accueil. Cependant, l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne, dirigée par Frauke Petri, gagne du terrain en réunissant les mécontents grâce à un discours anti-migrant radical. Elle a obtenu entre 12 et 24% des voix dans les trois Länder allemands où il y a eu des élections. Le mouvement Pegida, européen patriote contre l'islamisation de l'Occident, est parvenu à occuper une place non négligeable dans les médias. Si l'Allemagne reste la première économie européenne, l'OCDE considère aujourd'hui qu'elle devrait réformer ses services et investir davantage pour augmenter leur productivité. L'Organisation internationale pointe aussi de très importantes inégalités de salaire entre hommes et femmes. Elle souligne la nécessité de réussir la politique d'intégration des réfugiés et souligne le risque, en cas de mauvaise gestion, d'augmenter les inégalités sociales déjà importantes. Angela Merkel, favorable au traité de libre-échange transatlantique, le TAFTA, dont elle attend plus de croissance et donc plus d'emplois, peine à en convaincre son opinion publique, comment témoignent les importantes manifestations organisées lors de la visite de Barack Obama en avril dernier. Hélène Myard de la Croix, vous êtes historienne, spécialiste de l'Allemagne contemporaine, des relations franco-allemandes et de la construction européenne. Vous enseignez actuellement l'histoire et la civilisation de l'Allemagne à la Sorbonne. Vous êtes membre de différents conseils scientifiques, d'instituts et fondations en Allemagne. Vous nous direz si la position de la chancelière dans son parti vous semble compromise. Vous nous direz quel regard vous portez sur la montée de l'AFD et sur la portée de Pegida. Mais vous venez de participer à un ouvrage collectif intitulé « L'Allemagne entre rayonnement et retenue » publié aux presses universitaires du Septentrion. Vous y mettez en rapport la réussite de la politique intérieure de l'Allemagne depuis la réunification, la réussite démocratique, et les hésitations, pour ne pas dire les palinodies, de sa politique étrangère. Les récentes initiatives de la chancelière en faveur de l'accueil des migrants en Europe et son attitude récente encore à l'égard de la Grèce modifient-elles votre jugement ? Hélène Myard de la Croix.
Alors, je ne pense pas que cela modifie tant le jugement sur le fond, dans la mesure où, d'un point de vue allemand, tant la crise de la Grèce, on va dire la crise de l'euro, de la zone euro, la Grèce, que la crise des migrants, ne fait pas partie de la politique étrangère, mais sont des problèmes qui concernent directement les Allemands. Et de ce point de vue, même si ces deux attitudes allemandes ont été apparemment, et vraiment dans la perception globale, très très contradictoire. D'un côté, d'abord, une Allemagne, Madame Merkel incarnant une Allemagne un peu sévère, un peu rigide, un peu intransigeante vis-à-vis de la Grèce. Puis, quelques mois après, au mois de septembre, une Madame Merkel incarnant une Allemagne accueillante. En apparence, on avait deux attitudes différentes. Je crois que cela relève quand même d'une cohérence qui est celle qui marque le chemin que choisit le monde politique allemand, et en particulier Madame Merkel, depuis 10 ans, qui est de considérer que la politique étrangère, dans ses aspects d'intervention militaire, etc., doit toujours être marquée par une retenue. Donc on est sur cette ligne, mais qu'en revanche, il y a dans les affaires européennes, donc voyons la Grèce, ou dans cette situation exceptionnelle qu'a été l'arrivée massive de migrants et de demandeurs d'asile en Allemagne, on avait affaire au domaine où il faut réagir de manière pragmatique. Donc ça amène, si vous voulez, à une identification des grands principes qui marquent la politique en Allemagne, que ce soit celle de Madame Merkel dans les différentes coalitions qu'elle a dirigées depuis 10 ans, mais si on remonte un petit peu plus loin depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est de considérer que la responsabilité d'un politique, c'est à la fois d'être pragmatique, c'est-à-dire de résoudre des problèmes tels qu'ils sont posés, en essayant de s'en tenir à des règles de droit, des règles de processus, de fonctionnement, des règles de concertation entre les différents partenaires, un certain cheminement au sein des institutions, mais en même temps d'être fidèle à des principes. Et dans ces principes qui sont le fondement de la culture politique ouest-allemande, quand je dis ouest-allemande, c'est de l'ancienne RFA qui s'est élargie avec la réunification, dans ces principes, il y a autant le respect des pactes signés, donc le respect des règles, donc une certaine intransigeance vis-à-vis des voisins européens, mais aussi la très grande valeur accordée aux droits de l'individu, aux droits de l'homme, imprescriptibles, qui ne sont pas seulement des engagements internationaux, mais qui sont constitutifs de ce qui fonde l'Allemagne d'après le nazisme.
Thierry Pech.
Oui, la retenue est une constante, hein, vous l'avez dit, de la politique étrangère allemande. Et en même temps, on a le sentiment qu'il y a des variations dans cette retenue. Je me souviens de Joschka Fischer défendant l'intervention allemande en ex-Yougoslavie. C'était une autre politique étrangère. Je me souviens de moments où la retenue n'a pas été un synonyme de l'abstention. Or, j'ai le sentiment depuis quelques années que dans toutes les crises qui ont émaillé le voisinage de l'Europe, et elles ont été nombreuses, la relation avec la Russie, la question ukrainienne, la question syrienne, la question des migrants, la question aujourd'hui de la relation avec la Turquie, la question de l'arbitrage des Européens entre les deux grands blocs qui s'affrontent au Moyen-Orient, sur toutes ces questions, l'Allemagne est absente. Alors, dire aujourd'hui la question des réfugiés est une question de politique intérieure, pardon, c'est un sophisme. Quand la résolution de cette question passe par une négociation avec Erdogan, ça n'est plus une question de politique intérieure. Donc j'ai le sentiment que ce terme de retenue cache des différences très significatives. Et moi, je suis plus radical que vous dans le regard, et je voudrais votre sentiment sur ce point. Je pense que dans l'ère Merkel, la politique étrangère allemande s'est trop souvent résumée à une forme de mercantilisme et de cohérence avec des principes qui justifiaient l'abstention, mais qu'en même temps, cette position aujourd'hui, elle bute sur des crises qui appellent l'Allemagne sur la scène internationale comme une puissance et pas simplement un idéal.
Hélène Mère de la Croix.
Oui, en effet, vous avez tout à fait raison. On voit simplement dans la façon dont l'Allemagne a essayé de gérer la crise des réfugiés dans sa dimension internationale, on a toujours quand même buté sur cette idée qu'il peut y avoir une intervention militaire menée par les voisins, menée notamment par les Français, que le Parlement allemand peut voter un soutien à nos amis français qui vont bombarder des positions d'Al-Qaïda. C'est comme ça que ça a été vendu au Bundestag. Mais que pour autant, ce n'est pas le rôle de l'Allemagne d'assumer ce type de fonction. Et qu'au maximum, on va accompagner ces opérations militaires par une aide logistique, médicale, etc. Donc, je crois que vous avez raison de mettre en évidence le fait que l'Allemagne fédérale est devenue une puissance encore Alors, on a toujours dit c'est une puissance malgré soi, c'est la façon dont on a vu apparaître progressivement une Allemagne dont on disait dans les années 70 que c'était un nain politique et un géant économique. Là, aujourd'hui, vous avez raison de souligner que il est difficile de rester un nain politique quand on est un aussi géant économique. Et c'est vrai qu'un certain nombre des motifs et des mobiles des différentes actions de la chancelière Merkel en politique étrangère, notamment en Asie, qu'il ne faut pas oublier, ont été très ouvertement présentés comme au service des intérêts de l'Allemagne, c'est-à-dire des intérêts économiques, des intérêts de l'industrie allemande. Alors, lorsqu'on va sur des domaines comme l'Ukraine, où les différentes questions du voisinage, et en particulier de la Turquie, là, on ne bute plus. Enfin, ce ne sont plus des motifs mercantiles. On se trouve vraiment face à une situation où il faut agir, soit pour essayer d'être un interlocuteur, un intermédiateur dans la crise ukrainienne, soit, vu de Berlin, là je vous donne la lecture que peut en avoir Mme Merkel, vis-à-vis de la Turquie, dans l'impasse dans laquelle s'est trouvée l'Allemagne face à ses partenaires européens qui, eux, ont considéré qu'il y avait eu décision unilatérale d'accueillir les immigrés, les migrants, pardon, et leur refus de répartir par des quotas, sa seule logique possible était d'organiser leur maintien à l'extérieur. Et donc là, je ne suis pas sûre qu'on puisse continuer à dire que pour cette dimension-là, ce soit des réflexions mercantiles, des mobiles mercantiles qui jouent. Là, très clairement, c'est de la politique, ce sont des actes de politique extérieure, mais qui sont toujours motivés par des intérêts immédiats intérieurs.
François Bujon de l'Étang.
Il y en a d'autres qui sont motivés parfois par des pesanteurs historiques aussi, ou par des tropismes anciens. Alors, c'est le cas vis-à-vis de la Turquie, bien entendu, mais pour m'inscrire un petit peu en faux contre la remarque cependant juste de Thierry sur l'abstention allemande relative dans beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu aussi des initiatives, et parfois des initiatives tout à fait fâcheuses. Moi, j'en ai une tout à fait à l'esprit, c'est la façon précipitée dont l'Allemagne fédérale a reconnu l'indépendance de la Croatie au début des... Alors voilà bien une pesanteur historique. Au début des guerres de Yougoslavie, et cette précipitation à reconnaître la Croatie a en réalité précipité le déchaînement des guerres yougoslaves. Donc ça, c'est simplement l'exception, si vous voulez, qui justifie la règle. Ce n'est pas de la diplomatie. Au contraire, ma remarque est peu diplomatique, d'ailleurs, à l'égard de l'Allemagne. C'est un grief que je conserve à l'égard de la politique étrangère de la République fédérale. Mais il y a une autre chose qui me surprend. On présente toujours l'Allemagne comme le bon élève de la classe européenne, le prix d'excellence, alors que nous avons le bonnet d'âne dans un coin. Bon, c'est assez vrai, notamment en termes économiques, mais ça ne l'est pas toujours dans le comportement quotidien. Il y a une certaine propension de l'Allemagne à faire cavalier seul, et au fond, à ne pas trop s'embarrasser de la vie des autres, ou à ne pas trop consulter. Alors, il y a de multiples exemples. La façon dont Mme Merkel a annoncé, par exemple, de façon très impulsive après Fukushima, l'abandon du nucléaire, a été beaucoup critiquée en Allemagne même, mais n'avait aucune cohérence européenne. Ça allait directement à l'encontre des tentatives de l'Union européenne pour essayer d'avoir une politique énergétique à peu près cohérente. C'est un exemple, l'accueil des réfugiés, évidemment, par Mme Merkel et sa décision d'ouvrir les portes, en a été un autre. Mais il y a des propensions aussi qui vont à l'encontre des sentiments des autres Européens. Par exemple, dans la crise grecque, au sein de la zone euro, l'idée de préconiser la sortie de la Grèce, même à titre temporaire, qu'à un moment M. Schäuble et la CDU ont été tentés de faire, allait à l'encontre du sentiment plutôt majoritaire en Europe. C'est un autre cas. Et puis il y a des initiatives diplomatiques parfois surprenantes. Pendant l'affaire libyenne, par exemple, l'attitude résolue de l'Allemagne de s'abstenir et de ne pas appliquer, au fond, une résolution du Conseil de sécurité, contrairement à ses alliés français et allemands, et britanniques, pardon, a été jugée assez sévèrement en Allemagne même. Et l'accord Davutoğlu sur les migrants est tout à fait extraordinaire, parce que il a été négocié complètement en secret par la chancelière, avec un monsieur Davutoğlu qui apparemment n'avait pas non plus de mandat, d'ailleurs, de négocier, et à qui Monsieur Erdogan a ensuite demandé sa démission sur ce sujet. Donc, comment expliquez-vous que ce bon élève de la classe européenne ait tellement la tentation de n'en faire qu'à sa tête de temps en temps ?
Hélène Mère Delacroix.
Alors, tous les exemples que vous avez donnés sont justes et sont en effet aussi discutés en Allemagne. Et en partie, d'ailleurs, y compris dans les cercles diplomatiques allemands, considérés comme des erreurs, comme des choses que l'on n'aurait peut-être pas dû faire. En particulier, la décision sur la Libye. Je pense que ça a été assez reconnu comme, au minimum, une maladresse. Je ne reviendrai pas sur la reconnaissance de la Croatie. Vous avez bien souligné qu'il y a des terres terminant historique d'une certaine façon, comme il l'était d'ailleurs de l'autre côté, du côté des Français, qui avaient plutôt tendance à soutenir les Serbes. La logique, juste pour un petit rappel historique, la logique allemande à l'époque de reconnaître la Croatie était de dire, si nous voulons appliquer les principes au nom desquels nous avons, pendant des années de division, considéré que la RDA était un régime inique et qu'il fallait laisser au peuple la possibilité d'exprimer leurs désirs et leur autodétermination, nous ne pouvons pas, nous, Allemands, interdire aux Croates de vouloir s'autodéterminer. Alors qu'il faille aller très très vite et se précipiter pour reconnaître la Croatie, vous êtes diplomate, vous savez que normalement on s'y prend un petit peu plus prudemment et lentement. Mais le motif était celui-là. Tous les exemples que vous avez donnés sont justes et sont, je pense, un certain nombre d'éléments qui vont rester dans l'histoire lorsque l'on regardera les 10 années de Madame Merkel. En même temps, je suis frappée, et je trouve ça très intéressant lorsqu'on observe l'Allemagne de l'extérieur, c'est que on mesure toujours l'Allemagne à l'aune de ce que l'on a considéré comme acquis, qui était cette perfection. C'est-à-dire, l'Allemagne bon élève est quelque chose qui est accepté par ses voisins. Quand je dis accepté, c'est considéré comme acquis et c'est souvent regretté, mais c'est en général assez peu discuté. Or, vous pouvez remonter aussi loin que vous pouvez dans l'histoire de l'Allemagne fédérale. L'Allemagne n'a jamais été aussi parfaite et aussi bon élève qu'on le pense. Donc on a intégré, si vous voulez, nous les voisins, une grille de lecture de l'élève parfait dont on attend qu'il ne fasse jamais de faux pas. Et donc dès qu'il fait un faux pas, en effet, nous le soulignons. Alors c'est parfaitement légitime et normal de le dire. Et je pense que cela se dit entre Français et Allemands. Et les Allemands peuvent répondre de la même façon que des mesures unilatérales. La France en a pris quelques fois. Il y a aussi à l'époque du président Chirac, je me souviens d'une décision unilatérale de mettre un terme à la conscription sans en parler avec son voisin alors qu'on aurait pu le faire ensemble. Et ça, ce sont des choses que les Allemands peuvent reprocher aux Français. Donc je pense que... Alors, je vais employer un mot qui est très simple, qui est l'Allemagne est devenue normale. Je pense que l'Allemagne est devenue grande puissance, c'est clair. L'Allemagne hésite à assumer ses responsabilités internationales, c'est clair et c'est regrettable. Et je le regrette. Mais je crois que l'Allemagne devient de plus en plus normale. Tout en étant toujours considérée dans une spécificité. Et je pense que là, la chancelière, pour les différentes raisons qu'on peut imaginer, s'est sentie acculée dans une situation dont elle ne pouvait sortir que par des décisions unilatérales. Vous savez que cet accord pris en pleine nuit, je crois début mars, avec le Premier ministre turc, lui a valu énormément de chahut en Allemagne et que elle dit qu'elle a la peau épaisse et qu'elle peut résister à toutes les satires et que nous avons la chance dans nos pays européens d'avoir une liberté d'expression et que les caricatures sont là pour mettre du piquant dans la vie. Il n'empêche que celle-là lui a été énormément reprochée d'avoir d'une certaine façon livré pieds et poings liés l'Europe au bon vouloir d'un chef d'État et d'un gouvernement qui, pour le moins, ne respecte pas les grands principes et se comporte en autocrate. Et alors, c'est une chose qui n'a pas été bien perçue en France, enfin qu'on n'a pas bien ressenti, mais il y a eu une affaire qui a beaucoup agité l'Allemagne, à la fois pour sourire et en même temps pour faire grincer les dents. C'est que après cette affaire, où on a eu l'impression que l'Allemagne fédérale donnait à la Turquie les clés d'une, ou plutôt la main sur une épée de Damoclès au-dessus des Européens. Je vous renvoie des réfugiés si vous êtes désagréable avec moi, si vous n'acceptez pas une libéralisation des visas, etc. Madame Merkel a été présentée comme celle qui se mettait au pied d'un autocrate. Et là, les caricaturistes et les satiriques, oui, enfin la presse satirique, se sont déchaînés contre Erdogan. Et ça a conduit quand même à la fameuse affaire Böhmermann, qui, je ne sais pas si elle a été perçue en France comme telle, ou un satiriste, dans une émission, très clairement et très volontairement, une émission télévisée sur la chaîne Neo-ZDF, expliquer que les Turcs, vous devez comprendre que chez nous, on peut dire ce que l'on veut, et que chez nous, un journaliste n'est pas envoyé en prison. Il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire, et bien je vais le dire quand même. Et il a... il y a eu un déferlement de critiques extrêmement, leste de la façon dont Erdogan ne respecte pas les droits de l'homme. Et ce qui a conduit, en vertu d'un vieil accord sur, qui remonte au XVIIIe siècle, où il était prévu qu'on ne laissait pas dans un pays insulter un chef d'État étranger, et que cette petite règle de droit oblige l'exécutif allemand à autoriser que des poursuites soient faites, ça a conduit Madame Merkel à devoir, devant des télévisions et des radios, dire qu'elle autorisait la justice allemande à poursuivre cet humoriste. Et ça, vraiment, en termes d'image, ça a été extrêmement difficile pour la chancelière. Donc, c'est une des questions qu'il va falloir se poser. Ça fait 10 ans qu'elle est au pouvoir. Son image n'est pas aussi solide qu'on le croit.
Michaela Wiegel.
Oui, juste pour poursuivre l'affaire Böhmermann, effectivement, ça a même amené la chancelière à dire qu'elle a eu tort de respecter le droit et de ne pas penser en politique. Mm-hmm. Mais je voulais revenir à l'idée d'une normalisation de l'Allemagne, d'une Allemagne normale. J'irais presque plus loin en disant, j'ai parfois l'impression que l'Allemagne est devenue un peu française, dans ce penchant de penser, quand elle a une idée pour l'Europe, c'est bon pour tout l'Europe. Et avant, c'était plutôt la France qui, dans sa diplomatie européenne, agissait comme telle, c'est-à-dire elle prenait ses désirs pour les désirs des autres Européens. Maintenant, c'est frappant, c'est très souvent l'Allemagne. Alors, j'ai l'impression que cette crise des réfugiés est quand même une dimension tout à fait nouvelle, parce que pour la première fois, à mon avis, dans l'histoire d'après-guerre de l'Allemagne, on entre en conflit direct entre ce que vous avez bien décrit comme cette bonne conscience européenne, le bon élève, parce que non seulement les autres ont antériorisé en quelque sorte que l'Allemagne se devait était bon élève, mais les Allemands aussi le pensent très profondément. Et donc, j'ai l'impression, pour la première fois, les Allemands se trouvent dans un conflit ouvert entre cette bonne conscience du bon élève qui respecte les règles, qui se pense ouvert et européen, et la réaction des autres Européens qui disent « mais ils sont devenus fous, les Germains, pourquoi ils ouvrent leurs frontières, pourquoi ils acceptent tous ces migrants, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, ça, j'ai l'impression, c'est un moment très grave dans l'histoire, parce que jusqu'à maintenant, malgré les exemples qu'on a donnés, l'Allemagne pouvait toujours se sentir en quelque sorte intégrée dans cette communauté européenne. Et là, ça rentre en conflit.
Oui, c'est vrai.
Et la mère de la croix.
Tout à fait. C'est tout à fait juste l'Allemagne fédérale dans l'histoire, si on remonte à l'histoire de la construction européenne, a au début considéré que être intégré dans une Europe était une façon de se sauver et de participer, d'avoir relativement rapidement un statut d'égal, de partenaire respectable. Ça, on sait, ce sont les débuts dans les années 50, ou en dehors des intérêts économiques, qui sont absolument certains. Mais si on prend toute l'histoire de la construction européenne, l'Allemagne fédérale a été toujours ce qu'on appelle un contributeur net, et faisait partie du discours politique, en particulier d'Helmut Kohl, mais par la suite aussi. C'est vrai, nous payons plus que les autres, à la différence de Mme Thatcher qui réclamait son chèque, etc. C'est vrai que nous, Allemands, nous payons plus que les autres. Nous contribuons à financer l'amélioration par les fonds structurels de la situation de la périphérie de l'Europe. Au passage aussi de l'ancienne RDA, qui a beaucoup profité de ces fonds structurels. Mais c'est normal que nous payions plus, non pas en raison de notre passé, Et ça, l'argumentaire d'Helmut Kohl était très, très juste, même si lui avait cette vision toujours très, très historique. Il disait, nous payons plus, et c'est normal parce que ce que nous gagnons en retour est plus important que ce que nous payons. C'est-à-dire, nous ne payons, ce n'est pas seulement un échange comptable, mais il y a, en termes d'image, d'image de soi, de respect, et de capacité d'influence, qui n'est jamais exclue. Et ça, vous avez tout à fait raison, ça a été parfaitement intégré par les Allemands de l'Ouest, avant la réunification, qui considérait que l'Europe était une espèce d'ersatz de nation, on pouvait être fier. On était des bons Allemands et des bons Européens, et que nous contribuions à quelque chose qui n'était absolument pas entaché d'un quelconque défaut. Et puis, après la réunification, tous ces équilibres se sont un petit peu modifiés. On le sait, comme beaucoup d'équilibres se sont modifiés après la réunification et la chute du régime soviétique, il y a eu l'impression de plus en plus que en oubliant, comme je le disais, que l'Europe a beaucoup financé la restructuration des lenders de l'ancienne RDA, il y a eu l'impression de commencer à payer pour les autres qui auraient été paresseux. Donc, je crois que votre analyse est tout à fait juste. Elle est en effet ennuyeuse, regrettable, parce que c'est vrai que quand on est en Allemagne, on entend beaucoup les gens dire « Mais pourquoi vous, les autres Européens, n'accueillez-vous pas les migrants ?» À chaque fois, on est interpellé, moi en tant que Française, je suis régulièrement interpellée, mais enfin, pourquoi n'accueillez-vous pas plus de migrants? Et je réponds en général, soit l'un soit l'autre, soit pourquoi n'avez-vous pas demandé leur avis aux voisins avant de considérer qu'on pouvait faire entrer plus d'un million de migrants? Ou alors je réponds, pourquoi ne participez-vous pas à la partie militaire et aux tentatives de régler à la source ce problème? Et cet échange-là que je raconte, c'est un échange que j'ai régulièrement en Allemagne et je crois que c'est en petit exactement le malentendu qu'il y a actuellement entre l'Allemagne et ses voisins. Même si on peut toujours entendre que l'Allemagne dise que c'est compliqué d'envoyer des Allemands à l'étranger militaires. Il n'empêche qu'il va falloir qu'un jour ou l'autre, cette question soit vraiment posée. Jusqu'à quel point et dans quelle mesure, pour simplifier les choses de manière un peu brutale, l'Allemagne peut laisser les autres se faire tuer et elle considérer qu'elle n'a pas à intervenir sur le terrain militaire.
Thierry Pêche.
J'ai l'impression que ce débat commence à poindre et à mûrir en Allemagne. L'Allemagne a envoyé, et je crois qu'elle en est fière, des instructeurs et des soldats au Mali pour aider les Français. Ils le rappellent bruyamment. Alors les Français disent toujours, oui, c'est bien gentil, c'est quand même pas grand-chose, ce qui est vrai, mais c'est tout de même un signe. Et puis l'Allemagne investit dans son outil de défense à nouveau. Je crois qu'il a augmenté d'1 milliard d'euros là, cette année. Donc on est très loin de l'ancienne ligne un peu isolationniste qui était celle de la précédente coalition. Mais je voulais vous interroger sur un autre point qui est la cohérence des intérêts économiques de l'Allemagne avec les intérêts économiques de ses voisins. Ce n'est pas aussi évident qu'un pays qui est un pays d'épargnants aujourd'hui, qui a une économie extravertie, exportatrice, ait les mêmes intérêts que ses voisins. Et il y a un point qui le manifeste très clairement, c'est que les taux d'intérêt bas aujourd'hui qui sont entretenus par la BCE, parce que c'est l'intérêt de l'ensemble des membres de la zone euro, eh bien, est orthogonal à l'intérêt des épargnants allemands. Et ça, combien de temps ça peut tenir? Alors, on a vu une première expression de divergence, de cette divergence des intérêts économiques dans des mouvements comme l'AFD, dans la parole de certains économistes très écoutés en Allemagne. Mais moi, je pense que si les choses se maintiennent dans cet état, cette divergence va éclater au grand jour, parce qu'elle est effectivement à terme très coûteuse pour l'Allemagne. Alors certes, l'Allemagne a un intérêt implicite à la monnaie unique, qui avait été chiffré par l'équivalent de la Caisse des dépôts allemande, je crois, à quelque chose comme 20 ou 30 milliards d'euros par an, ce qui est beaucoup d'argent quand même. Bon. Mais c'est vrai que l'intérêt des épargnants allemands n'est pas du tout de voir se poursuivre la politique de la BCE, qui est pourtant vitale pour des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie.
Hélène Mière de la Croix.
Alors vous avez tout à fait raison, au sens où on se trouve dans une situation presque grotesque, puisque cette politique de la BCE et l'indépendance de la BCE a été une des exigences allemandes et une des conditions qu'a posé l'Allemagne lors de l'Union économique et monétaire et au moment, donc, déjà les principes de Maastricht en 92. Et donc, d'une certaine façon, Les craintes qu'avaient les Allemands à l'époque, on commence à avoir accès aux archives, donc on voit vraiment jusqu'à quel point on a beaucoup freiné, y compris dans la CDU d'Helmut Kohl, à sauter ce pas vers la monnaie commune en considérant que les autres Européens ne seraient pas en mesure de respecter les critères, les fameuses règles, le triangle, le carré d'or qu'il y a en Allemagne sur un équilibre entre les grandes données économiques, et que les autres Européens n'accepteraient jamais de laisser une banque centrale décider ce qui était bon pour tout le monde. Et à l'époque, on considérait que ce qui était bon pour tout le monde, c'était d'empêcher l'inflation de monter et de maîtriser la monnaie. Aujourd'hui, comme vous le dites, on est dans une situation différente. Il y a de la part de la BCE, pour l'ensemble des Européens, la décision de qu'il est raisonnable de maintenir des taux très bas et qui, soudain, entre complètement en contradiction avec les intérêts de l'Allemagne. C'est vrai que, et ça, c'est à la limite plus l'Allemagne qui est différente, enfin qui est plus différente des autres, qui se distingue des autres, dans la mesure où il y a en effet en Allemagne très peu, et dans la comparaison franco-allemande c'est très intéressant, très peu de patrimoine immobilier. C'est un pays d'épargnants et c'est un pays d'épargnants âgés. Donc, où beaucoup des épargnants ont besoin de cette épargne pour vivre, puisque c'est à côté de leur retraite qui sont en train de dégringoler, une façon d'assurer leur quotidien. Alors, en même temps, là aussi, il ne faut pas non plus, surligner le fait que les intérêts économiques d'un des partenaires divergent des autres. Je crois que c'est une des données, y compris lorsqu'on était dans la toute première Europe à 6, et au fur et à mesure que l'Europe s'est agrandie, il n'y a jamais eu identité des intérêts entre les partenaires, et la structure que vous avez décrite de l'économie allemande est une donnée qui a encore plus été exagérée avec
L'Allemagne n'a jamais été aussi vieille. Non, l'Allemagne n'a jamais été aussi vieille et aussi épargnante.
Oui, non, mais je parlais en termes d'une économie orientée vers l'exportation, une industrie manufacturière. Ces données-là, elles étaient déjà là dans les années 50, 60, 70. Les différents gouvernements étaient confrontés à cela. Mais c'est vrai que, et ça, vous soulignez qui est un point qui est très important et qui, je pense, et peut-être assez peu pris en considération chez les voisins dans son importance et dans sa portée, c'est les pronostics que l'on peut faire pour cette économie dont la population vieillit de manière qu'on n'arrive pas à freiner. Alors vous savez que la démographie est une science très intéressante, mais que la politique, l'intervention possible sur la démographie est quelque chose de très très long terme, et toutes les décisions qui sont prises actuellement ne pourront avoir un effet que dans des décennies. Il est clair que les Allemands aujourd'hui prennent de plus en plus conscience que les équilibres économiques à l'intérieur d'une société vieillissante ne peuvent pas tenir ainsi. C'est un des pays, en Allemagne, où les retraites diminuent. Les retraités français ne sont déjà pas contents quand les retraites n'augmentent pas. En Allemagne, les retraites diminuent parce qu'on a parfaitement calculé avec des modèles mathématiques très simples que par répartition, enfin c'est les principes de la retraite par répartition, on doit partager, et selon les prévisions, il va falloir partager en donnant moins à chacun. Et ça, je crois que ça participe d'ailleurs de ce que Michaela Wiegel soulignait, c'est-à-dire cette espèce de malaise en Allemagne en disant on nous aime moins à l'étranger, et en plus nous ça va moins bien. Et donc ça facilite, ça facilite des pensées simplistes selon lesquelles nous avons été des bons épargnants, nous avons aidé les autres, nous avons été des bons travailleurs. Et regardez maintenant, et je mets plein de guillemets, ces gens du Sud qui se la coulent douce, qui ne respectent pas les règles, nous avons respecté les règles, et puis ma retraite, elle a encore diminué. C'est ça ce que le citoyen lambda peut penser assez rapidement.
Vous avez parlé tout à l'heure de quelques-unes des raisons pour lesquelles la chancelière Merkel est moins populaire aujourd'hui en Allemagne. Comment faut-il ajouter à ces raisons celles que nous venons d'évoquer, que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la diminution des retraites, c'est-à-dire le vieillissement irrémédiable pour un temps en tout cas de la population, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, et comment est-ce qu'il faut lier ça avec le succès de l'alliance de l'alternative pour l'Allemagne, le succès réel à travers les élections et le succès dont j'aimerais que vous nous disiez comment vous le qualifieriez de Pegida. Personnellement, il me semble qu'il est quand même très médiatique. Ils ont réussi un certain nombre de coups, notamment ces rencontres du lundi, là, ces manifestations hebdomadaires tous les lundis. Est-ce que au-delà de ça, Pegida a une importance réelle?
Alors, je crois que Pegida, en effet, est un phénomène de protestation qu'on pourrait qualifier d'extrêmement ancien, c'est-à-dire je suis pas content, je vais dans la rue et j'en veux aux autres qui me prendraient ce que je n'ai pas. Et en même temps, un phénomène qui est extrêmement lié à l'évolution de nos sociétés, avec la présence non seulement des médias, mais aussi des médias, des réseaux sociaux. Et du rapport que les individus ont à leur monde environnant, en passant par un écran et par aussi cette possibilité que donne le monde digital d'être immédiatement acteur, d'agir, de pouvoir immédiatement donner son avis. Si vous voulez comprendre Pegida, faut aussi comprendre ces fameux blogs. Enfin, il faut regarder les fameux blogs. Vous savez, ces espaces où on peut répondre en donnant son avis sur tel ou tel phénomène, tel ou tel article, telle ou telle émission de France Culture, et déverser un flot d'horreur. Et de ce point de vue, Internet a... alors, ce que je dis n'est pas réactionnaire au sens où je regrette le temps où il n'y avait pas Internet. Mais il faut quand même remarquer que Internet a permis à tout individu de dépasser une limite, de rompre un tabou d'une certaine façon et de dire et de formuler des choses à l'abri de son écran. Et qu'il y a eu... la possibilité d'un déferlement de sentiments hostiles, anti-islam et tout ce que vous pouvez imaginer, xénophobes de toutes sortes. Donc le fait de descendre dans la rue et de se retrouver à plusieurs qui disent la même chose que ce que chacun dit devant son petit écran a la fois eu un phénomène d'encouragement et le fait que ces phénomènes étaient relayés par les médias et les médias sociaux a très certainement amplifié le phénomène. Alors, le phénomène Pegida, on pourrait considérer qu'il était une des expressions de choses très, très, très générales et en même temps très allemandes. Très générales, c'est-à-dire ce manque de perspective, cette absence de perspective que peut avoir une partie de la population allemande ou européenne qui se considère comme laissée au bord du chemin, c'est-à-dire n'ayant pas accès à la culture, n'ayant pas accès à des boulots au-delà du petit job, condamnée d'une certaine façon à une relégation en bas. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène général. Ce mouvement s'est développé dans l'est de l'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose qui est très allemand et où on voit dans les nouveaux Länder, alors qu'on est quand même 25 ans après la réunification, réapparaître d'anciens modes d'analyse du monde qui sont en fait le résultat de l'accumulation d'années passées dans un régime où à la fois il y avait un rapport, au moins dans la narration, de protection du citoyen par l'État et en même temps une défiance généralisée, défiance vis-à-vis de l'autre qui pouvait vous dénoncer, qui pouvait être votre ennemi, et une défiance vis-à-vis de celui que je ne connais pas, qui peut être étranger. Alors, il y avait certes des étrangers, il y avait des gens de couleur en RDA, mais ils étaient perçus comme étant catapultés de pays frères et n'étaient pas vécus comme des concitoyens. Et je crois que cette spécificité qu'on peut retrouver, après, dans différents pays de l'Est, qui manifestent dans leur vote ces derniers temps de vieux réflexes, nous c'est nous et nous ne voulons pas des autres, dans les nouveaux Länder de l'Est, de l'Allemagne, donc dans les Länder orientaux de l'Allemagne, c'est venu se rajouter à cette impression qu'on pouvait d'un seul coup aller dans la rue et dire qu'on n'était pas d'accord, voire mettre le feu à des bâtiments dont on sait qu'ils étaient censés accueillir des étrangers. Hein, ça avait déjà eu lieu dans les années 90. On a déjà eu des incendies de lieux d'accueil. Et est venu se rajouter à cela l'arrivée de migrants. Et ça a potentialisé la chose et ça nourrit, si vous voulez, cette espèce de ras-le-bol, je veux dire que je ne suis pas d'accord, de tout un discours extrêmement violent, extrêmement xénophobe, qui a trouvé son expression dans les urnes, dans le vote pour l'alternative für Deutschland.
François Bujon de l'Étang.
Je voudrais revenir un instant sur les problèmes que nous avons évoqués trop rapidement tout à l'heure, le problème du leadership et le problème de la défense, au fond, qui sont un peu liés. Le problème du leadership, d'abord, était très frappant de voir que quand le président Obama est venu en Europe, il s'est rendu en Grande-Bretagne parce qu'il voulait prêcher contre le Brexit, mais il s'est ensuite rendu en Allemagne comme si elle était le leader naturel de l'Europe. Et il a traité l'Allemagne en leader naturel de l'Europe. Il a d'ailleurs fait une éloge, une espèce de canonisation spectaculaire de Mme Merkel, et il a couvert en même temps la République fédérale et le peuple allemand de quantité d'éloges très, 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 très flatteurs. Au fond, il reconnaissait avec éclat le leadership allemand en Europe. Ça ne plaît que très moyennement aux Français. Et au fond, ma question est de savoir si ça plaît tellement aux Allemands. Parce que chaque fois que je participe à une rencontre franco-allemande, et ça m'arrive souvent, j'entends les Allemands me dire ou nous dire « Mais qu'est-ce que vous faites en France? On a vraiment besoin que vous vous ressaisissiez parce que nous ne pouvons pas exercer seul le leadership de l'Europe. Ça ne peut être qu'un leadership franco-allemand. Alors où êtes-vous? Que faites-vous? Nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas exercer seul le leadership de l'Europe. » Et pourtant, c'est ce qu'Obama a l'air de leur conférer. Alors ça, c'est une première question. Et la deuxième, y est liée, c'est celle de la défense. Effectivement, on a le sentiment d'une certaine évolution en Allemagne sur le thème de la défense. Obama a d'ailleurs réclamé aux Allemands, une fois de plus, de prendre part davantage à l'effort de défense. Et quand on lit les propos qu'il a tenus à l'Atlantic Monthly, on voit qu'ils sont très peu amènes à l'égard de l'Allemagne et du fait qu'elle est un free rider, c'est-à-dire qu'elle profite de la protection. Alors on avait l'impression que les choses avaient changé un peu. À la Verkunde, il y a 2 ans, Madame von der Leyen et le président de la République fédérale lui-même avaient dit que l'Allemagne devait assumer davantage sa part de responsabilité. On sentait qu'il se passait quelque chose. Et puis, on ne voit finalement rien venir, ou pas grand-chose. Y a-t-il une évolution des esprits en Allemagne? Et l'Allemagne va-t-elle, un jour, prendre davantage sa part au fardeau de la défense commune, non seulement en Europe, mais au sein de l'OTAN, comme l'y invitent les Américains?
Hélène Mère de la Croix.
Alors, je dirais qu'une partie de la réponse à la première question est dans la deuxième.
Oui, oui.
C'est-à-dire que je crois que... En effet, la visite de M. Obama et les presque les flatteries qu'il a formulées vis-à-vis du peuple allemand, qui pourraient presque rappeler de Gaulle, le grand « je salue le grand peuple allemand » en 1962, qui était à la fois une conviction du général de Gaulle et en même temps aussi un instrument pour faire avancer la relation franco-allemande. Je pense que... il ne faut pas le prendre uniquement au premier degré, je dirais, en disant « il est allé voir les Allemands pour leur faire toutes ces félicitations ». Comme il n'a pas été voir les Français, ce sont les Allemands les seuls leaders. Je pense que c'est précisément dans les regrets exprimés par le président Obama face à ce refus de l'Allemagne à participer à la dimension militaire de la défense des valeurs de l'Occident, que l'on comprend pourquoi il est allé, d'une certaine façon, les soutenir. Je pense qu'il y a aussi, et là on peut le voir de manière plus générale, dans les mots très très positifs du président Obama pour la chancelière Merkel, aussi l'idée qu'il faut soutenir les bons dirigeants politiques traditionnels qui sont capables de tenir fermement le bateau dans la tempête, alors qu'il y a des populistes, AfD en Allemagne, Trump aux États-Unis, on est en pleine campagne électorale américaine, qui pourrait promettre monts et merveilles. Donc je pense que c'est beaucoup plus, c'est multicausal cette affaire. Alors en même temps, vous avez tout à fait raison, on entend toujours venir d'Allemagne cette demande vis-à-vis des Français qui est de dire le leadership, nous devons le faire ensemble. Alors c'est un petit peu ambigu en même temps, parce qu'on a toujours aussi entendu en Allemagne le reproche à l'égard des Français qu'évoquait Michael Havigel tout à l'heure, qui est de dire les Français souvent prennent des décisions et considèrent que ce qui est bien pour eux est bien pour les autres et pourraient se poser des questions sur l'intérêt de leurs voisins. Il n'empêche que c'est vrai qu'il y a, depuis des années, pas seulement depuis dans le dernier quinquennat, mais le quinquennat précédent. Bon, ça fait 10 ans que j'entends les Allemands nous dire « Mais qu'est-ce que vous faites en France? Allez-vous vous redresser? Allez-vous vous réformer? Allez-vous vous améliorer? Nous avons besoin que vous soyez fort. » C'est tout à fait juste. Et ça, je crois que là aussi, pour les journalistes qui quelquefois, certains veulent aller vite et considèrent l'Allemagne est puissante et l'Allemagne fait cavalier seul et l'Allemagne veut faire cela. C'est une erreur grossière d'analyse, et vous le savez très bien. L'Allemagne ne peut pas agir seule et a besoin de la France, parce que si on procède par élimination, ce ne sont pas les Britanniques qui semblent les partenaires les plus acharnés à soutenir une action européenne commune. Ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas l'Espagne, qui pourtant sont des grands pays mais qui ont des difficultés économiques. Ce n'est pas la Pologne, qui aurait pu être une option il y a quelques années, lorsque la Pologne se présentait comme un solide partenaire dans l'OTAN, etc., avec les dernières évolutions en Pologne. Où l'Allemagne peut-elle trouver un partenaire, si ce n'est en France? Mais ce qui est dit aussi, lorsque l'on parle avec un certain nombre de cercles d'experts ou aux affaires étrangères en Allemagne, c'est une inquiétude sur ce qui se passe en France, et le souci de ne pas non plus provoquer les choses de manière trop brutale en Europe, pour ne pas nourrir le vote Front National. Je crois qu'un des pires cauchemars vu de Berlin, c'est de se retrouver en sommet franco-allemand, d'après le traité de l'Élysée, avec un dirigeant d'extrême droite.
Michael Avigal.
Oui, alors justement, l'extrême droite, on n'a pas, je pense, épuisé le chapitre AfD, l'Alternative pour Deutschland. J'avais envie de vous demander, parce que pendant très longtemps, le dogme, en quelque sorte, des chrétiens-démocrates allemands, c'était « on ne veut pas de parti à notre droite ». Et là, pour la première fois, on a un parti et on a l'impression, et là j'aimerais bien avoir votre avis, on a l'impression que ce parti va rester. C'est pas un épiphénomène. Et justement, on peut déjà distinguer deux étapes. Au début, c'était un parti essentiellement ouest-allemand, avec des professeurs d'économie qui, depuis toujours, étaient vexés qu'on a fait l'euro, mais qui ont maintenant presque tous quitté le parti. Et le parti est en fait aujourd'hui incarné par cette femme est-allemande, Frau Petri, et protestante de surcroît. Et donc, on a l'impression qu'ils sont en train d'intégrer les idées de Pegida avec un programme très fortement anti-islam. Maintenant, ils ont dit, d'ailleurs, je crois, lors de leur dernier congrès, que l'islam n'était pas compatible avec la démocratie allemande, ce qui est quand même un positionnement très fort. Donc, je voulais voir, vous pensez ce parti va rester et changer un peu le paysage politique de l'Allemagne.
Hélène Mire de la Croix.
Alors, je vous remercie beaucoup de poser cette question, parce que c'est un de mes grands sujets, un de mes grands soucis et une des évolutions, je crois, les plus marquantes des dernières années. On a en effet affaire en Allemagne à, alors là aussi on peut dire une normalisation, considérer que l'AfD, c'est dans tous les autres pays européens, il y a entre 15 et 20% d'électeurs d'un parti populiste. Il y a surtout, très certainement, la fin d'un paysage partisan qui s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale, avec un peu j'espère pas pour l'Allemagne, une évolution qu'on a vue aussi apparaître en Autriche. C'est-à-dire que, alors que, comment dire, la tradition, depuis que l'Allemagne a, si ce n'est une vie démocratique, mais au moins une vie parlementaire, la tradition du paysage partisan allemand, c'est deux grandes familles, à l'intérieur desquelles vous avez à peu près trois morceaux, c'est assez connu, c'est le système soit à 5, soit à 6, si on considère que le libéralisme se partage entre gauche et droite, des conservateurs, un parti chrétien, catholique, de tradition, et puis une social-démocratie modérée et une extrême-gauche. Ça, c'est un schéma qui a contribué à la catastrophe de Weimar. On a considéré, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il fallait construire un système de partis qui soit beaucoup plus rassembleur et qui ait, bien qu'on ait toujours, enfin depuis le début des années 50, un mode de scrutin qui permette une représentation non pas majoritaire, mais proportionnelle des partis, qu'il était sain d'avoir en Allemagne un gros bloc conservateur, un gros bloc progressiste, on va dire, et puis au milieu, un petit parti libéral qui pouvait faire l'appoint. Ça, ça a été la grande victoire, si l'on veut, de l'Allemagne fédérale au cours des années 50. C'était pas tout à fait la première législature, mais ça s'est fait vers 53-55. C'est que la CDU a réussi à absolument absorber tout ce qui existait, y compris à sa droite, par le biais de la CSU bavaroise. Ça a été très longtemps la fonction de la CSU bavaroise d'assimiler tout ce qui pouvait être de force un petit peu nationale et d'assimiler beaucoup, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, dont on aurait pu parler tout à l'heure déjà, une partie du vote des 12 millions de réfugiés allemands qui sont arrivés en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une expérience de devoir assimiler une population qui est déracinée et qui pourrait être tentée par des extrémismes. Cette capacité qu'a eu le système politique ouest-allemand à vraiment intégrer est en train de se défaire pour deux raisons. Il se défait parce que tant la social-démocratie, déjà à l'époque de Willy Brandt, de Schmitt, mais beaucoup plus à l'époque de Gerhard Schröder, que les chrétiens démocrates, un petit peu à l'époque de Helmut Kohl, mais beaucoup plus depuis Madame Merkel, revendiquent d'être le centre. Des deux côtés, c'est le mot « die Mitte ». On dit « on est le centre ». Exactement le contraire. Personne en France veut être au centre. Et bien en Allemagne, les sociodémocrates et les chrétiens démocrates veulent être au centre. Donc ce discours sur le centre a laissé, au moins dans les représentations et dans les imaginaires, de l'espace libre pour des valeurs qui ne seraient pas au centre. Et la deuxième grande caractéristique qui a accéléré cette évolution, c'est l'installation comme quelque chose de quasiment normal, qui est la grande coalition. Alors que la grande coalition, c'est-à-dire que gouvernent ensemble les conservateurs, on va dire chrétiens-démocrates, et les progressistes sociaux-démocrates, est complètement contradictoire avec l'idée de chacun son tour, a été considéré comme une exception dans les années 66 et 69, et a été utilisé comme bonne solution par le premier gouvernement Merkel et par le troisième gouvernement Merkel dans lequel on est, et ça a eu pour effet de donner l'impression que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est le drame du SPD actuellement, et ça fait apparaître à l'extérieur des hostilités et des oppositions.
Thierry Pêche.
Justement, je voulais vous interroger sur la gauche allemande. Son histoire depuis 10 ans est assez tragique. D'abord parce qu'elle se dit social-démocrate, mais au fond, les réformes qu'a réalisées Schröder ne sont pas réellement social-démocrates au sens chimiquement pur du terme. Ce sont plutôt des réformes sociales libérales qui essayaient d'imiter Tony Blair en Angleterre, et notamment celles qui ont été réalisées au début du deuxième mandat. Donc l'idée social-démocrate, déjà, je pense, a été profondément heurtée par cet épisode Schröder qui est regardé dans le reste de l'Europe comme un épisode magique. Bon. Deuxièmement, cette gauche, elle a été fracturée. On a vu apparaître Die Linke sur sa gauche, justement. Donc elle est pas, elle est dans un processus de décomposition, au sens littéral du terme, plus avancé que la droite, qui s'interroge sur l'AFD. Là, la gauche a Die Linke. Il y a Oscar Lafontaine, il y a cette famille-là. Enfin, dans les dernières élections, le SPD, on a beaucoup parlé de la montée de l'AFD, mais le SPD sort assez affaibli des récents scrutins, et il y a probablement une querelle de leadership qui l'attend. Il n'est pas sûr que Sigmar Gabriel soit demain le leader de cette famille. Comment vous voyez, est-ce qu'il y a un chemin de résilience pour cette gauche allemande dont tout semble indiquer qu'elle est promise à des heures encore plus difficiles que celles qu'elle vient de vivre?
Hélène Mire de la Croix.
C'est en effet le triste constat que font non seulement les sociodémocrates eux-mêmes, mais les autres démocrates en Allemagne qui considèrent qu'il n'est pas normal de ne pas avoir un parti à gauche qui soit fort sans être extrémiste. En effet, les résultats ont été absolument, on peut même le dire, catastrophiques aux élections régionales de mars, puisque en Saxe-Anhalt, donc à l'Est, ils ont eu moins de 10%. moins de 10%. Et dans les intentions de vote, actuellement, on est à 20% maximum, 30% pour la CDU. Je ne suis pas sûre que ce à quoi nous allons assister, ce sera une querelle de leadership, parce qu'un des problèmes du Parti social-démocrate actuel, c'est qu'on ne se bouscule pas pour être leader. C'est-à-dire que si Zygmunt Gabriel reste le chef du SPD, j'allais dire, alors qu'il est considéré comme étant velléitaire, il change souvent d'avis, il a des grandes idées, puis il fait travailler des gens dessus, et puis finalement on change d'avis, il n'y a pas, derrière ou à côté de lui, de grandes figures qui pourraient rassembler. J'avais pensé, moi, à un moment que l'actuel ministre du Travail, Andrea Nahles, qui est encore un peu jeune, aurait peut-être la fibre. Je ne suis pas sûre qu'elle rassemble beaucoup de gens derrière elle. Je crois que c'est un des drames, et la participation à la grande coalition a encore plus aggravé cette évolution qui était là depuis 10 ans, mais il y avait déjà eu une grande coalition avant, parce que, et ça il faut le comprendre, plus on a plus on a considéré que Madame Merkel c'était le gouvernement, tout ce qui est contribution du SPD à des réformes, y compris l'introduction du salaire minimum, des réflexions sur la retraite minimum, etc. Si c'est bien, ça va être considéré comme le résultat du gouvernement Merkel. Donc ce ne sera même pas mis au crédit du SPD. Y a une personnalité actuellement qui est très bien vue dans la population et qui arrive deuxième dans les classements. Vous savez, la télévision de CDF fait régulièrement « Si vous votiez dimanche, pour qui voteriez-vous » et « Quelle est la personnalité préférée ?» Pendant des années, jusqu'à 2015, Madame Merkel, quand on regardait les graphiques à la télévision, était en première place, au-dessus de tout le monde. Elle est descendue en cinquième place. Vous savez qui est premier ? C'est le vert, Kretschmann, celui qui est ministre-président du Bade-Württemberg, qui est vert et qui a récupéré aussi beaucoup de votes de la CDU et d'une spécificité swab, on va dire. Bon. Mais le deuxième, c'est un social-démocrate qui est l'ancien, qui a été un candidat malheureux contre Merkel la dernière fois, qui est le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, qui n'a pas très envie de retourner au combat pour être chancelier. Or, lui, il en aurait l'étoffe. Et puis, vous avez derrière Schäuble, et puis une autre social-démocrate, mais qui est très régionale. C'est Malou Dreyer, qui est une personnalité qui est assez peu connue en France, qui est une femme qui, en plus, très courageusement, mène sa barque alors qu'elle est très gravement malade, et qui a été très, très bien réélue en Rhénanie-Palatinat. Donc, vous voyez, les quelques personnalités qui accroche une image positive, ne sont pas en mesure de prendre la direction de ce parti. Donc je partage tout à fait ce constat. Il faudrait un sursaut. Et je pense que la CDU a besoin d'un SPD fort. Et n'a pas envie de se retrouver uniquement face à des Verts, ou qui ne seraient pas nécessairement dans son opposition, ou face à une extrême gauche qui est là, extrême comme son nom l'indique.
Je vous remercie. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'aurais aimé, moi, vous interroger précisément sur la spécificité des Verts allemands, pas seulement dans leur différence avec nos Verts à nous, mais leur spécificité, leur positionnement un peu étrange, en tout cas pour nous, là aussi, puisqu'on a l'habitude de considérer que les Verts sont des Verts de gauche, si je puis dire, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, et aussi sur la spécificité écologique de leur discours, puisque, au fond, nos Verts à nous sont plus politiques, souvent, qu'ils ne sont écologiques. Mais malheureusement, comme je viens de le dire, l'heure de nous séparer est venue. Hélène Mire de la Croix, merci. C'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet, avec à la technique Valérie Lavalard. La semaine prochaine, nous quittons les pays, nous cessons de voyager à travers les pays et de nous interroger sur leur situation et leur place dans le monde et dans les relations internationales, encore que ils seront très présents, puisqu'il va s'agir de la défense, plus précisément de la défense française, et nous recevrons le général Vincent Desportes, qui est professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC, et qui est l'ancien directeur de l'école de guerre. J'espère donc vous retrouver pour cette nouvelle émission thématique consacrée cette fois-ci à la défense.